Au début des années 80, Miami est une plaque tournante pour le trafic de drogue et l'État tout entier de la Floride en est bientôt affecté. Même les petites localités côtières comme Charlotte County en subissent les conséquences. Les charmantes voies navigables deviennent des points d'entrée pour des stupéfiants qui seront distribués partout aux États-Unis. La police est dépassée. Elle manque d'effectifs pour contrer le problème. Mais un procureur est résolu à tout faire pour que les narcotrafiquants comparaissent en justice. Eugene Berry, l'assistant du procureur de l'État, compte endiguer le flot d'arrivées de drogue. Son ami et superviseur est le procureur de l'État, Donald Pelecchia.
Ici, au sein de la population, il avait la réputation d'être quelqu'un qui ne se laissait jamais marcher sur les pieds. Il ferait tout ce qu'il pourrait pour faire condamner les individus impliqués dans le monde de la drogue, qu'il s'agisse de vendeurs, de trafiquants ou de consommateurs. Sa seule ambition était d'être un bon procureur. Il avait plaidé plusieurs causes. Il était toujours à la cour à s'occuper d'une affaire.
Eugene Berry a toujours rêvé de pratiquer le droit. Mais c'est un rêve qu'il n'a pas pu réaliser au tout début de sa vie active. Il n'a obtenu son diplôme d'une faculté de droit qu'à l'âge de 41 ans. Peu de temps après, il a été embauché comme assistant du procureur de l'État au bureau de Charlotte County en Floride. Berry a vu les effets dévastateurs de la drogue au sein de sa propre famille. Il est déterminé à mener un combat sans relâche contre le trafic de drogue. Entre 1977 et 1981, il a remporté 90% des causes importantes dont il s'est occupé. Les narcotrafiquants s'en sont aperçus. Ils se sont mis à craindre Gene Berry et à espérer ne jamais l'affronter dans une salle d'audience. Samedi 16 janvier 1982. Gene et sa femme Trudy passent une soirée paisible à la maison. Quelqu'un frappe à la porte.
Les coups de feu ont fait beaucoup de bruit, je m'en souviens nettement. Il y avait une lampe à ma droite qui bloquait ma vue de la porte, et je n'ai donc pas pu voir qui était entré. Je me rappelle ensuite avoir composé le 911 pour dire à la téléphoniste qu'on avait tiré sur Gene. Ensuite, j'ai essayé de le soulever.
Les premiers policiers à arriver sur les lieux s'approchent avec prudence. Ils trouvent Trudy agenouillée aux côtés de son mari blessé. Les policiers l'obligent à sortir de la maison afin de s'assurer que l'assaillant n'est plus là. Des ambulanciers arrivent et s'empressent d'administrer les premiers soins à Berry.
J'ai vu les ambulanciers entrer avec leurs petites trousses. Je me suis alors dit que j'irais avec lui à l'hôpital, que lorsqu'il partirait avec Gene, je les accompagnerais. J'ai attendu pendant ce qui m'a semblé une éternité. Ils sont alors sortis, mais sans Gene. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il était mort.
Le procureur de l'État, Joe D'Alessandro, est alors informé de la mort de l'un de ses assistants. Il se rend aussitôt sur les lieux du crime avec l'enquêteur en chef, Ralph Cunningham. Donald Pelecchia, le superviseur de Berry, se rend aussi sur la scène du crime. Ensemble, les trois hommes décident que le bureau du procureur de l'État va s'occuper de cette enquête.
Quand un policier est tué, le service de police fera tout en son pouvoir pour résoudre cette enquête. On veut capturer l'individu qui l'a tué. Un de mes procureurs avait été assassiné, et je pensais de cette façon, moi aussi. Je voulais qu'on trouve le coupable.
Même si Trudy n'a pas pu voir l'assaillant de son mari, elle fournit malgré tout un indice précieux aux enquêteurs.
Je l'ai entendu dire à la porte « Bonjour, comment allez-vous ? » Et c'était de toute évidence le timbre de voix d'une femme. J'en étais persuadée. Mais c'est tout. Ce sont les seuls mots que j'ai entendus.
Les enquêteurs fouillent minutieusement la maison à la recherche d'indices. Près de la porte d'entrée, on recueille trois projectiles, dont un qui est resté coincé dans le montant de la porte. Les analyses indiquent qu'il s'agit de projectiles de calibre 38 à pointe plate. On utilise généralement ce genre de balles pour le tir à la cible, parce qu'elles sont peu coûteuses et faciles à trouver. Pour d'autres raisons, les balles à pointe plate sont les projectiles de prédilection des tueurs à gages. La balle en plomb se désintègre souvent lors de l'impact, ce qui élimine d'importants indices balistiques, comme les rainures sur les projectiles. En l'absence de ces indices, les experts peuvent difficilement déterminer quelle arme a servi à tirer les balles, ce qui prive le procureur d'un précieux élément de preuve à présenter au jury. On interroge les voisins des Berry dans l'espoir que l'un d'eux aura entendu ou vu quelque chose.
Ce soir-là, ils ont commencé à faire des recherches dans le quartier pour trouver des voisins de Jean qui auraient vu ou entendu quelque chose, notamment entendu les coups de feu. On a eu la chance de trouver des témoins qui nous ont aidés à déterminer à quel moment le crime avait été commis.
Un dentiste du secteur est passé dans le quartier une heure avant le meurtre. Plus tard, il a déclaré à la police avoir aperçu une femme qui faisait son jogging près de la maison des Berry. La femme était de race blanche et âgée de 23 à 27 ans. Elle était de taille moyenne et avait les cheveux longs et foncés. Elle portait un ensemble de jogging bleu foncé. On transmet aux médias la description de la suspecte. Les autorités espèrent qu'en rendant publique cette information, cela les aidera à trouver la femme et à l'interroger. Quand les journalistes demandent aux enquêteurs quel pourrait être le mobile du crime, ces derniers ne peuvent émettre d'hypothèses publiquement. Ils croient toutefois que l'auteur du crime vient du milieu des narcotrafiquants dans lequel Berry s'est fait plusieurs ennemis. La liste des suspects inclut tous ceux contre lesquels Berry a déjà engagé des poursuites judiciaires. L'enquêteur en chef, Ralph Cunningham, mène les recherches pour identifier le meurtrier de Berry.
C'était un procureur. Il y avait donc beaucoup de gens qui le détestaient. Toutes les personnes qu'il avait fait condamner, tous ceux qui étaient impliqués dans les affaires qu'il avait traitées. Ça signifiait qu'on avait beaucoup de suspects potentiels pour cet homicide et ça rendait la situation très difficile. On a mis beaucoup de temps à mettre de l'ordre dans tout ça. Normalement, il n'y a pas autant de suspects pour un cas d'homicide.
Avec si peu d'indices et une liste de suspects qui compte presque tous les noms des narcotrafiquants du sud de la Floride, trouver le meurtrier ne sera pas une mince affaire. L'assistant du procureur, Eugene Berry, a été abattu au moment où il ouvrait la porte à quelqu'un. Il était reconnu pour sa détermination à faire condamner tous ceux qui étaient mêlés au trafic de drogue. Ralph Cunningham, l'enquêteur en chef dans cette affaire, essaie de trouver le mobile du crime.
On a commencé par croire qu'il s'agissait sans doute d'une histoire de vengeance.
L'équipe d'enquêteurs qui travaillait pour moi a fouillé tous les dossiers de la cour dont Jean s'était occupé. On disposait de la liste de tous les témoins, de tous les complices, bref, de toutes les personnes qui étaient mêlées à ces affaires. On devait examiner leur cas de plus près, voir où elles se trouvaient, déterminer si elles étaient en prison ou en liberté, par exemple, et noter les noms de chacune de ces personnes.
Parmi toutes ces pistes se trouve un cas que Barry devait plaider 2 jours après sa mort. Il s'agit du dossier d'un petit revendeur de cocaïne qui s'appelle Stephen Taylor. En cherchant Taylor pour l'interroger, les enquêteurs apprennent qu'il a été victime d'un accident de la route. Il se trouve dans un hôpital de Lexington, au Kentucky. Le bureau du procureur de la Floride demande à la police de Lexington de se rendre à l'hôpital en question. Quand les policiers arrivent, ils constatent que 2 femmes tiennent compagnie à Taylor. Ils leur demandent de sortir de la chambre. Il demande ensuite à Taylor où il se trouvait au moment où Jean Barry a été tué. Il répond qu'il se trouvait dans un bar du coin où plusieurs personnes l'ont vu. Plus tard, au cours de la soirée, il a été victime d'un accident de la route. Son alibi semble solide. Les policiers de Lexington transmettent ces informations aux enquêteurs de la Floride. Ralph Cunningham et son équipe en prennent bonne note et continuent à analyser le dossier de Barry. Parmi les centaines de cas dont Barry s'est occupé, il y a celui d'un certain Mike Kelly. Trois mois avant le meurtre de Barry, Kelly a été reconnu coupable de trafic de drogue et de complot pour avoir tenté de faire entrer clandestinement 17 tonnes de marijuana en Floride. On soupçonne Kelly de faire partie d'un cartel de drogue basé au Kentucky. Il a été condamné à 45 ans d'emprisonnement. Au moment du meurtre, Kelly était derrière les barreaux, en attente de son procès. En étudiant le dossier de prison de Kelly, on découvre un fait intéressant. Mike Kelly et Stephen Taylor ont brièvement été incarcérés dans la même aile de la prison. Une enquête plus poussée révèle que Taylor a été remis en liberté quand la femme de Mike Kelly est venue payer sa caution de $12,000. Les enquêteurs trouvent le lien entre les Kelly et Stephen Taylor suspect. Ils demandent aux autorités de Lexington d'interroger Bonnie, la femme de Mike Kelly. Celle-ci déclare que le soir du meurtre de Jean Barry, elle se trouvait à Lexington. Elle y a rencontré Henry Vance, un représentant en assurance qui pourra corroborer ses dires. Ce dernier a des liens étroits avec les cercles politiques du Kentucky. Il a même déjà fait partie de l'équipe du gouverneur de l'État. Il travaille à l'heure actuelle pour le président de la Chambre du Kentucky. Il a également un travail au sein d'une société d'assurance. Quand on l'interroge à ce sujet, Henry Vance corrobore les dires de Bonnie Kelly. Comme ses alibis empêchent l'enquêteur Cunningham de progresser, il essaie d'aborder l'affaire sous un autre angle. Il dresse le profil du genre de meurtrier qu'il recherche.
On pouvait présumer que le coupable était venu de l'extérieur pour faire le coup. Notre secteur était très paisible avant que le trafic de drogue ne l'envahisse. Par conséquent, je croyais que le coupable ne venait pas d'ici. J'ai voulu déterminer qui était arrivé par avion durant les 48 heures avant le meurtre et qui était reparti dans les 2 jours suivants. On a obtenu les listes des passagers de toutes les compagnies aériennes qui étaient arrivées dans le sud-ouest de la Floride. Il y en avait plusieurs milliers.
Cunningham obtient également les registres de toutes les compagnies de location de voitures de la région.
On a fait de même pour les motels et obtenu les noms de tous ceux qui avaient loué une chambre. On voulait mettre tous ces noms ensemble et relever les corrélations entre les listes. On espérait qu'on aurait quelque chose à se mettre sous la dent. L'aspect le plus complexe de cette enquête a été d'obtenir les listes de tous les appels effectués depuis toutes les cabines téléphoniques entre Naples, au sud, et Punta Gorda, à Charlotte County, au nord. Il y a environ 120 kilomètres entre ces deux localités.
Les enquêteurs obtiennent ainsi des montagnes de données à examiner. Comme la victime de ce meurtre est un collègue, tous les gens qu'ils peuvent au bureau du procureur participent à l'enquête. Parmi eux se trouve Ed Gale, qui travaille au sein de l'unité des renseignements.
Je serais surpris si on me disait que les gens consacraient moins de 18 heures par jour à l'affaire. C'est étonnant, mais vrai. On y mettait tous au moins autant d'heures que ça.
Les enquêteurs examinent toutes les données à la recherche du moindre détail suspect ou inhabituel.
On cherchait des individus sur lesquels on n'avait aucune autre donnée que leur nom.
On a d'abord éliminé toutes les personnes qu'on pouvait identifier et qui semblaient mener des vies normales. On est alors tombé sur des personnes sur lesquelles on ne trouvait rien. On avait cette Brenda Rankin qui était arrivée par avion et qu'on ne pouvait pas identifier. Il n'y avait rien sur cette personne dans les registres.
Les enquêteurs se mettent ensuite à la recherche de coïncidences suspectes. C'est un travail fastidieux. En examinant la montagne de données, les employés du bureau du procureur font alors quelques découvertes intéressantes. Quelqu'un a appelé à Lexington, au Kentucky, de plusieurs cabines téléphoniques de Floride. Un appel a eu lieu environ une heure après le meurtre. Il provenait d'une cabine située devant un hôtel de Sarasota. Le numéro composé est celui d'une cabine téléphonique à une distance de marche de la maison de Mike Kelly.
En identifiant ces appels téléphoniques, on s'est retrouvé avec le groupe de Kelly. Même si c'était encore tôt dans le processus d'enquête, on croyait que ce groupe était impliqué dans ce meurtre.
L'enquête a maintenant un but. Des analyses plus poussées des appels renforcent le soupçon qu'il existe bel et bien un lien entre les Kelly et Stephen Taylor.
En examinant les relevés téléphoniques, on a pu constater qu'il y avait eu des appels à la maison de M. Kelly et aussi des appels de M. Taylor au Kentucky. Il y avait donc un lien entre Taylor et ses appels.
Cunningham se rend à l'hôtel de Sarasota. Il montre aux employés des photos des complices de Mike Kelly. Une employée reconnaît quelqu'un sur les photos. Il s'agit de Bonnie Kelly, la femme de Mike Kelly. L'employée déclare que la femme sur la photo s'est présentée sous le nom de Brenda Rankin, un nom que l'on a déjà vu dans les registres des passagers d'avion et qu'on n'a jamais pu vérifier. Les enquêteurs en déduisent que Rankin est le pseudonyme de Bonnie Kelly. L'employé dit également aux policiers qu'elle était accompagnée d'un homme noir du nom de Joe Rankin. Les enquêteurs prennent les fiches d'enregistrement de Brenda et de Joe Rankin à titre d'indice. Bonnie Kelly est maintenant un suspect important dans l'affaire. Les enquêteurs examinent ses allées et venues en Floride. Ils découvrent qu'elle voyage avec son présumé complice, Stephen Taylor, et qu'elle fait souvent des appels depuis des cabines téléphoniques.
Chaque fois qu'on surveillait Bonnie, elle transportait un sac de pièces de monnaie pour payer ses appels. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'on savait qui elle appelait.
Elle appelle des trafiquants de drogue connus. Mais bien qu'on sache qui elle appelle, on ne sait pas de quoi elle discute avec eux. Les enquêteurs croient que Bonnie Kelly essaie d'obtenir de l'aide des anciens complices de son mari, Mike. Kelly a appelé notamment un important narcotrafiquant qui se fait appeler Curly. Ce dernier est soupçonné d'avoir fait venir les 17 tonnes de marijuana pour lesquelles Mike Kelly fait l'objet d'accusations. Curly est convaincu que l'appel de Bonnie est surveillé par la police. Il veut absolument éviter d'attirer l'attention des policiers qui sont particulièrement vigilants lorsqu'un des représentants des forces de l'ordre a été assassiné. Il contacte alors l'enquêteur Ralph Cunningham. Leurs chemins se sont déjà croisés par le passé.
Ce type était purement et simplement un homme d'affaires. C'était un narcotrafiquant, mais il avait une famille et il ne voulait pas qu'on l'associe à ce meurtre. Et comme il ne voulait surtout pas aller en prison pour trafic de drogue, il a saisi cette occasion d'aider sa cause en nous proposant un marché.
Curly affirme que Bonnie Kelly a reconnu avoir abattu Jean Berry. Elle voulait que Curly lui donne son argent afin que Taylor et elle puissent quitter le pays. Les informations fournies par Curly relativement à Bonnie Kelly constituent le premier indice de son implication dans le meurtre de Jean Berry. En échange de sa collaboration, Curly ne sera pas poursuivi pour son trafic de drogue. L'enquête entourant le meurtre de Jean Berry a permis de trouver deux suspects, même si ceux-ci ont chacun un alibi. Une opération de surveillance permet bientôt aux enquêteurs de découvrir que Taylor et Bonnie Kelly ont une liaison. Les enquêteurs sur place attendent que l'un d'eux fasse une erreur ou qu'il commette un autre crime. Pendant ce temps, d'autres experts amassent des preuves indirectes contre les deux présumés meurtriers. Ils espèrent que les suspects seront arrêtés avant qu'ils n'obtiennent assez d'argent pour quitter le pays. Le procureur Gene Berry de la Floride a été assassiné au moment où il ouvrait la porte de sa maison à quelqu'un. Bonnie Kelly et Stephen Taylor sont les deux principaux suspects de ce meurtre. Ils se doutent qu'ils sont surveillés par les autorités. Ils espèrent mettre la main sur assez d'argent pour pouvoir s'enfuir des États-Unis. Les enquêteurs doivent trouver d'autres indices compromettants pour les arrêter. Ils commencent par demander aux policiers de Lexington, au Kentucky, d'interroger Henry Vance, l'homme qui a corroboré l'alibi de Bonnie Kelly et qui travaille étroitement avec le milieu politique.
Il a dit qu'il l'avait rencontré vers 18h40, le soir du meurtre. Avec ce que nous savions alors de Bonnie, nous avons remis en question la véracité des propos de cet homme.
Bonnie finit par quitter la Floride pour retourner au Kentucky. Les enquêteurs gardent Taylor sous surveillance.
On a décidé de nous concentrer sur Taylor. Pour nous, c'était le maillon faible dans toute l'affaire. Il était mêlé à l'homicide. Il savait ce qui se tramait, mais il n'était pas l'assassin. Dans le meilleur des cas, il n'avait été que complice par instigation avant l'homicide.
Les enquêteurs ont alors un coup de chance quand ils aperçoivent Taylor transportant une arme sur lui. Ils le suivent jusqu'à ce qu'il entre dans le territoire sous leur juridiction où ils l'arrêtent.
Dès qu'il est arrivé sur notre territoire, on l'a arrêté et l'on a trouvé des armes et des stupéfiants sur lui.
Les enquêteurs peuvent maintenant faire inculper Taylor de port d'armes illégales et de possession de stupéfiants. Ils l'avisent qu'il est un suspect important relativement au meurtre de Jean Berry. Taylor risque la peine de mort. Son avocat et lui tentent d'en arriver à une entente avec Cunningham.
On l'avait coincé. Il a dit vouloir conclure un marché avec nous avec l'aide de son avocat. Il voulait qu'on l'écarte complètement de ce dossier. Mais c'était hors de question pour moi.
Taylor déclare aux enquêteurs qu'il connaît l'identité de l'homme qui se trouvait avec Bonnie Kelly le soir du meurtre. Il ne le révélera toutefois que si on lui garantit l'immunité complète pour cette affaire.
À ce moment de l'interrogatoire, j'ai dit « prenons une petite pause ». Je suis sorti dans le couloir et je suis allé à la bibliothèque d'où j'ai contacté le quartier général.
Cunningham s'entretient avec l'enquêteur Ed Gale. Ce dernier lui parle d'un suspect que les enquêteurs ne sont jamais parvenus à retracer ni à interroger. Il s'appelle Richard Holliman.
Le nom de Holliman est apparu dans notre enquête parce qu'il passait beaucoup de temps avec Mike Kelly et Taylor en prison.
Ed Gale dit à Cunningham qu'il a trouvé de nouveaux indices qui semblent montrer que Holliman a participé au complot.
La plupart des gens ignorent que le service de sécurité de l'aéroport fait le tour des aires de stationnement et note tous les numéros des plaques d'immatriculation vers 23 heures ou minuit chaque soir pour voir s'il n'y aurait pas des véhicules volés. Quand on a mis la main sur ces relevés, on a découvert qu'une voiture immatriculée au nom de Richard Holliman s'y était trouvée. Il était donc venu à l'aéroport. En outre, c'était au moment où Brenda Rankin était arrivée par avion. On voulait parler à Holliman, mais il était introuvable.
Cunningham soupçonne Richard Holliman d'avoir joué un rôle dans le meurtre. Mais il devra trouver des indices pour étayer ses soupçons. De plus, il ne veut pas laisser filer Stephen Taylor.
Je suis retourné dans la salle et j'ai repris l'interrogatoire là où je l'avais laissé. J'ai dit à Taylor, je vous ai offert de réduire votre peine d'emprisonnement, mais vous refusez de collaborer et vous vous entêtez à nous mentir. Son avocat a alors répondu, oh non, il dit la vérité. J'ai alors dit, écoutez, on a déjà obtenu la déclaration sous serment de Holliman. On connaît l'identité du complice et on va vous faire inculper à titre d'auteur de ce meurtre au premier degré. Il y a alors eu un silence de mort. J'ai su que je venais de les piéger.
La tactique de Cunningham fonctionne et Taylor accepte de coopérer à condition qu'il puisse plaider coupable à une accusation réduite de meurtre au second degré, ce qui n'entraînera pas la peine de mort. Taylor raconte que la cible première de Bonnie Kelly était une femme qui servait d'informatrice à la police.
Le bureau du shérif s'était servi de cette informatrice et avait caché des micros sur elle. Elle était ensuite allée acheter des stupéfiants à des vendeurs de drogue. Taylor avait été inculpé dans cette affaire dont s'occupait Gene Barry. On disposait alors de plusieurs informateurs. Sans eux, il nous aurait été impossible de passer aux accusations.
Mais l'informatrice était protégée par les enquêteurs et vivait dans un endroit secret. Bonnie Kelly avait donc décidé de s'attaquer à la deuxième cible sur sa liste, Gene Barry. Taylor révèle aux enquêteurs qu'il a mis en scène son propre accident de voiture le soir du meurtre de Gene Barry. Il déclare que Henry Vance, l'homme d'affaires ayant des liens étroits avec le milieu politique, l'a aidé à organiser cet accident. Il ajoute que Vance n'a pas fourni qu'un alibi à Bonnie Kelly. Il lui a aussi procuré l'arme du crime. Vance aurait vraisemblablement dit à Bonnie Kelly d'utiliser des balles à pointe plate, car il est plus difficile de déterminer quelle arme a été utilisée. On a même fait disparaître le numéro de série de l'arme afin qu'il ne soit pas possible d'en retracer la provenance. Vance a aussi dit à Bonnie Kelly de viser la tête et la poitrine de sa victime et de s'assurer que Barry était mort avant de quitter les lieux. Stephen Taylor permet aux enquêteurs de se faire une idée de la façon dont ce complot a été mis au point. Il fournit notamment des informations sur l'implication de Richard Holliman. Taylor raconte qu'avant d'être remis en liberté sous caution, il a rencontré Holliman, qui devait rester en prison pendant 60 jours pour défaut de paiement d'une allocation familiale. Après sa remise en liberté, Taylor a fait le nécessaire pour que Holliman soit le chauffeur de Bonnie Kelly pendant le séjour de celle-ci en Floride. En échange, Taylor lui a promis de le faire entrer dans le réseau de trafic de drogue. Les enquêteurs retracent finalement Halliman et le convoquent à un interrogatoire. Bien qu'il soit persuadé que Halliman est impliqué dans le meurtre, il croit qu'il n'a joué qu'un rôle secondaire.
Quand il s'est rendu compte que ces types s'étaient simplement servis de lui, il semblait très serein. On n'a eu aucun mal à l'interroger, car il était très coopératif.
Halliman fait une déclaration sous serment pour les autorités. Lui aussi accepte de plaider coupable à une peine réduite de meurtre au second degré en échange de son témoignage. Halliman explique que Bonnie Kelly s'est présentée à lui sous le pseudonyme de Brenda Rankin. Steven Taylor ne lui a jamais divulgué le vrai nom de Bonnie Kelly. Halliman a touché la somme de $1,000 pour servir de chauffeur à Kelly pendant quelques jours. L'enquêteur Cunningham prend l'avion pour le Kentucky pour y arrêter Bonnie Kelly. Les procureurs sont persuadés d'avoir mis la main au collet de leur meurtrier. Kelly sera inculpé de meurtre au premier degré pour la mort de l'assistant du procureur Gene Berry. Mais les procureurs sont toutefois préoccupés par le manque de crédibilité de leurs témoins clés. Deux criminels qui ont accepté de témoigner pour s'éviter la peine de mort. Le procès de Bonnie Kelly s'ouvre le 29 avril 1983, soit un an et trois mois après le meurtre de Gene Berry. L'affaire a été confiée aux procureurs de l'État Donald Pelecchia et Joe D'Alessandro. La poursuite présente une imposante quantité de témoins qui ont travaillé pour les entreprises téléphoniques du secteur. Ceux-ci parlent des appels effectués aux environs de l'heure du meurtre de Gene Berry, de cabines téléphoniques en Floride à d'autres cabines téléphoniques au Kentucky. On interroge également des témoins identifiés à partir de la liste des passagers d'un avion qui ont vu Bonnie Kelly à bord. Est ensuite appelé le dentiste qui a aperçu une femme faisant du jogging le soir du meurtre.
I remember passing a jogger and I noticed the jogger because it was really late and she was wearing sunglasses.
Mais la défense met en doute qu'il soit si sûr de l'avoir vu alors qu'il faisait si noir le soir du meurtre de Gene Berry.
Would you say it's fair, Dr. White?
La poursuite a présenté au jury les preuves indirectes dont elle dispose. Les procureurs sont inquiets de l'impact des arguments de la défense sur le témoignage du dentiste.
Could be. Could have been somebody else.
Could have been.
La poursuite appelle ensuite à la barre les présumés complices de Kelly. Le premier étant Steven Taylor. Celui-ci déclare sous serment que Kelly lui a parlé de son projet de tuer Gene Berry. Selon lui, elle ne voulait pas qu'il soit mis derrière les barreaux par ce même procureur qui avait fait condamner son mari à une peine d'incarcération de 45 ans.
I know why she said that she wanted to kill Gene Berry, because she hated him.
She hated him.
Witness, counsel.
Thank you, Your Honor.
La défense attaque aussitôt la crédibilité de Taylor.
Mr. Taylor.
L'avocat rappelle au jury que Taylor a accepté de témoigner en échange d'une peine réduite.
You understand the difference, do you not, between first degree and second degree murder?
Yes, sir.
First degree carries the death penalty.
Yes, sir.
Second degree does not carry the death penalty.
Yes, sir.
And it was you, Mr. Taylor, who would have benefited from the death.
La défense souligne le fait que la mort de Gene Berry lui aurait profité à lui et non à Bonnie Kelly.
It was you, Mr. Taylor, who benefited, if you can call it that, from the death of Gene Berry.
Benefited?
Well, you got what you wanted. Your continuance was granted, wasn't it, Mr. Taylor?
That wasn't the reason. I didn't plan to kill Gene Berry.
You got your continuance by virtue of his death.
Of course it was continued.
And it was you and no one else, Mr. Taylor, except for you, that could have benefited from that death. Isn't that right?
I don't know why he was killed.
Nothing further, Your Honor.
Very well.
La poursuite appelle ensuite Richard Halliman à la barre des témoins. C'est lui qui a conduit Bonnie Kelly le soir du meurtre de Gene Berry.
Les procureurs espèrent qu'il sera plus crédible que Taylor aux yeux du jury. Holliman, qui est interrogé par le procureur Joe D'Alessandro, déclare qu'il a été contacté par Taylor peu de temps après sa remise en liberté de prison. Taylor voulait qu'il serve de chauffeur à Bonnie Kelly. Holliman déclare qu'il a été chercher Bonnie Kelly à l'aéroport. Cette dernière utilisait alors le pseudonyme de Brenda Rankin. C'était à peine 19 heures avant le meurtre de Jean Berry. Holliman ajoute qu'elle a trouvé l'adresse de Berry en regardant tout simplement dans un bottin téléphonique. Ils se sont ensuite servis d'un plan de la ville pour repérer sa maison. À la tombée du jour, Kelly a enfilé une tenue de jogging bleue et mis une perruque foncée. Elle est alors partie courir dans la rue pour voir de plus près la maison de sa victime. Les procureurs croient que c'est à ce moment-là que le dentiste a vu la prévenue quand il est passé dans la rue. Après avoir terminé sa mission de reconnaissance, Kelly était prête à commettre le crime. Holliman dit qu'il a ensuite attendu Bonnie Kelly dans une petite rue. Il a entendu des coups de feu. Il a démarré ensuite quand il a vu Kelly dans la lumière de ses phares. Une fois à bord, Kelly lui a décrit en détail le meurtre. Elle s'est rendue à la porte d'entrée et a frappé. Quand le procureur a ouvert la porte, elle a fait feu à deux reprises. Comme Berry tentait de rentrer à l'intérieur, elle l'a suivi et a tiré à deux autres reprises. Bonnie Kelly a ensuite commencé à se débarrasser des indices pendant qu'il s'éloignait des lieux du crime. Holliman déclare avoir vu Kelly lancer ce qu'il croyait être l'arme du crime dans un petit cours d'eau près de la mer. Il n'a pas vu l'arme, mais elle lui a dit qu'elle devait se débarrasser de quelque chose dans de l'eau salée. Les enquêteurs n'ont jamais retrouvé l'arme. La défense s'en prend alors à la crédibilité de Holliman, comme elle l'a fait pour Stephen Taylor.
Memory of the events seems to be quite sharp. Especially the point where Mr. Berry answers the door, almost as if you were there yourself.
I was not, sir.
Yes, that's been.
La défense tente également de montrer que Taylor et Holliman sont très liés et qu'ils ont un projet commun de vente de stupéfiants.
And you've known Mr. Taylor for a while, haven't you?
Yes, sir.
You talked about forming a partnership, right?
Yes, sir. And drugs.
Right. A Taylor-Holliman partnership.
He was leading, I was the seller.
Thank you, Your Honor. No further questions.
La poursuite essaie d'éliminer les doutes qui ont été soulevés par les questions de la défense. On appelle un expert en documents du laboratoire judiciaire de la Floride, à Tampa.
I'd like to show you these three documents. Would you please examine them? Okay, what are those three documents?
Il a analysé des échantillons de l'écriture de Bonnie Kelly et les a comparés à celles de la fiche d'enregistrement d'hôtel qu'elle aurait vraisemblablement remplie et signée sous le nom de Brenda Rankin. L'examen confirme que l'écriture de l'adresse indiquée sur la fiche ressemble à celle de Bonnie Kelly. Mais les espoirs des procureurs sont réduits à néant, car la preuve n'est pas concluante. L'expert ne peut affirmer hors de tout doute que c'est elle qui a signé l'affiche.
Tout tournait autour de ce point en particulier. Ça nous ferait perdre la cause ou, au contraire, la gagner. Et malheureusement, il y avait des contradictions dans ce témoignage.
Le fait que l'expert soit incapable d'affirmer que la fiche a été remplie par Bonnie Kelly peut soulever des doutes chez les jurés. Après avoir présenté des témoins pendant 2 semaines et demie, la poursuite conclut sa plaidoirie. La défense conclut également la sienne sans présenter d'autres témoins. Elle met toutefois en doute les témoignages de Taylor et Holliman sur lesquels la poursuite a fondé sa cause. L'avocat de la défense rappelle au jury que le projet d'association entre les deux hommes porte atteinte à leur crédibilité.
This may be as momentous a decision as you will be ever having to make in your life, I'm sure. And would you make a decision, a business decision, based upon the representations of Mr. Taylor, of Mr. Holliman? I suggest to you, ladies and gentlemen, respectfully, that you would not. How then can you make a decision in this case based upon the representations of a Holliman-Taylor partnership? Respectfully, that you would not.
Les procureurs sont inquiets en raison du contre-interrogatoire de leurs témoins par la défense. La crédibilité de ces témoins clés est maintenant remise en question. Quand soudain, la veille du jour où la poursuite doit conclure, les procureurs trouvent un nouvel indice.
Il devait être 2 ou 3 heures du matin. Ed et moi étions en train d'examiner les points cruciaux du dossier quand il m'a dit « Attends une seconde, je crois avoir déjà vu cette adresse quelque part. » Et il s'est dirigé comme un automate vers une boîte d'où il a sorti un document.
C'est l'adresse d'une proche parente de Bonnie Kelly. C'est la même adresse que celle qui figure sur la fiche d'enregistrement de l'hôtel.
L'adresse qui avait été inscrite sur cette fiche était celle d'un membre de la famille de Bonnie. Ça prouvait qu'elle avait menti.
Lors du mot de la fin, la poursuite explique au jury que lorsqu'une personne ment, elle a tendance à insérer des éléments de vérité dans son tissu de mensonges. Le fait que l'adresse sur la fiche d'enregistrement soit celle d'une parente de Bonnie Kelly soutient l'argument de la poursuite, selon lequel elle s'est trouvée à cet hôtel juste après le meurtre de Jean Berry. La poursuite est d'accord avec la défense sur un point. Stephen Taylor est bien un criminel et il aurait tiré profit du meurtre de Jean Berry. Mais le procureur insiste sur le fait que c'est le doigt de Bonnie Kelly qui a appuyé sur la détente. Le jury délibère pendant 7 heures avant de reconnaître Bonnie Kelly coupable de meurtre au premier degré. Il la condamne à une peine d'emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Lors de leurs procès respectifs, Stephen Taylor et Richard Holliman reçoivent leur sentence. Le juge estime que la responsabilité du meurtre revient davantage à Taylor qu'à Bonnie Kelly, et il le condamne à 99 ans de prison. Quant à Holliman, il le félicite pour sa coopération et le condamne à 10 ans de prison, auquel il retranche 5 ans. Il ne lui restera donc que 5 ans d'incarcération à purger. Mike Kelly, qui avait été condamné pour trafic de drogue, est libéré sur appel. Les déclarations d'un témoin clé lors de son procès sont jugées inadmissibles. Le dernier maillon du complot pour le meurtre de Jean Berry est Henry Vance. Il aurait fourni l'arme du crime et les alibis de Bonnie Kelly et de Stephen Taylor. Les enquêteurs parviennent à faire accuser Henry Vance juste avant la fin du délai de prescription de 5 ans. Il est inculpé de possession illégale d'armes à feu selon la loi fédérale. Il est reconnu coupable et condamné à 15 ans d'emprisonnement, la peine maximale pour ce genre de crime. Même si cette enquête est résolue, la population de Charlotte County et de l'État de la Floride est toujours en deuil à la suite du décès du procureur. L'État a créé le prix Eugene Berry, qui est remis annuellement au meilleur procureur de l'État, non seulement pour ses habiletés de procureur, mais aussi pour sa conscience sociale et communautaire. Cette tragédie a permis au public de se rendre compte que les policiers ne sont pas les seuls à mettre constamment leur vie en danger. Les procureurs sont également menacés. Et parfois, ils doivent payer de leur vie le combat qu'ils mènent pour que justice soit rendue.